Atlantique Mobile de Banque Atlantique, l'appli mobile totalement gratuite, vous propose les missions Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, merci de votre confiance. Profitez-en, nous sommes vendredi, dans 30 minutes, la Libre Antenne, et vous pourrez bien évidemment commenter l'actualité de votre choix. Parmi les sujets qui vous interpellent, les tensions au Sénégal, le recensement électoral au Gabon, notamment en vue de la présidentielle, les affrontements au Soudan, autre projet... le procès des massacres du 28 septembre en Guinée, procès suspendu à cause des avocats. On nous appelle du Tchad également pour commenter la tournée du président Mahamat Idriss Déby dans le sud du pays et des réactions évidemment sur Karim Benzema, sur Lionel Messi. Vous aussi, vous souhaitez commenter l'actualité. On vous attend au standard 33 9 693 693 70 et sur nos réseaux sociaux, le compte WhatsApp et la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Moussa, nous commençons avec vous. Bonjour.
Bonjour Juan.
Merci de nous appeler de Badoura. Vous êtes en Allemagne.
Badoura, oui.
C'est bien ça.
En Allemagne, à 40 km au sud-est de Stuttgart.
Eh bien, soyez le bienvenu. Merci de votre fidélité. Vous avez des questions, Moussa, sur la guerre en Ukraine.
Sur la guerre en Ukraine, Juan, s'il vous plaît.
Oui.
Ces temps-ci, on entend des informations contradictoires sur la contre-offensive ukrainienne. Et donc là-dessus, j'aurais trois questions. Et la première question, c'était, est-ce que cette... contre-offensive a déjà commencé.
Ah, bonne question. C'est la question que tout le monde se pose. A-t-elle déjà commencé? Franck-Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des questions défense à RFI, c'est vrai que ça fait des mois qu'on entend dire que l'Ukraine prépare une offensive pour reprendre aux Russes les territoires qu'ils occupent. Depuis le début de la semaine, Moscou soutient que la contre-offensive a commencé. Qui dit vrai, que sait-on ?
Eh bien, à en croire les observateurs avisés, il est fort probable que cette offensive, contre-offensive, deuxième contre-offensive ukrainienne ait bien commencé le lundi 5 juin sur quatre axes. Les Ukrainiens ont engagé plusieurs brigades mécanisées dans la région de Donetsk et un peu plus au sud dans la région de Zaporijja. Ils ont engagé les premiers blindés occidentaux, les Léopards allemands et les AMX-10 français. Pour l'instant, on constate que les gains sont modestes, des progressions sur quelques centaines de mètres, un kilomètre par-ci, pas beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens, en fait, sont à la recherche d'intervalles dans le dispositif défensif russe. Ils partent à l'assaut de ce dispositif, de cette ligne de défense qui s'appelle, les Russes l'ont baptisé, je vais vous le dire, elle s'appelle Fabergé. Une référence certainement à l'orfèvre, au joaillier des tsars.
Et Franck-Alexandre, à quoi ressemble justement cette ligne Fabergé ?
Alors, c'est une ligne dans la profondeur, sur 30 km, 6 lignes successives. La première sert un petit peu à l'observation. Et puis après, vous avez sur chaque ligne des dents de dragon, ces barrières anti-chars en béton qui doivent, avec des obstacles, pour freiner. Il y a aussi, rappelez-vous, cet hiver, on avait pointé l'arrivée sur le front des vieux chars T-54. On se disait, les Russes sortent du matériel antédiluvien, c'est incroyable. Ouais. À quoi va-t-il servir ? Eh bien, ces vieux chars, ils les ont enterrés dans les lignes de défense. En fait, c'est leur artillerie spéciale. Les chars sont enterrés et ils s'en servent pour tirer sur les troupes d'assaut.
Donc, si je comprends bien, Franck-Alexandre, cette ligne Fabergé, elle sera compliquée à franchir.
Oui, pour la franchir, il faut faire ce que les militaires appellent du bréchage, c'est-à-dire qu'on fait intervenir le génie qui, avec des moyens particuliers, par exemple, ils peuvent projeter des bandes d'explosifs sur plusieurs centaines de mètres pour créer des corridors, et une fois que le corridor est créé, très vite envoyer les troupes d'assaut, l'infanterie motorisée, s'engouffrer dans ces corridors pour rejoindre le terrain libre derrière le dispositif défensif.
Allez, on redonne la parole à Moussa, il nous a dit qu'il avait trois questions. La deuxième, Moussa.
La deuxième, c'est pourquoi l'Ukraine a-t-elle rendu publique son intention de mener une contre-offensive ?
C'est vrai ça, Franck-Alexandre. Pourquoi annoncer une offensive.
Ah ben c'est la guerre de l'information. L'offensive, c'est vrai, a été annoncée de longue date. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut répondre à l'opinion publique ukrainienne et puis plus largement à l'opinion publique internationale, aux pays qui soutiennent l'Ukraine, leur dire que bientôt, vous allez voir, on va passer à l'offensive et que les efforts ne sont pas vains. Hein. En revanche, ces derniers jours, vous avez noté hein, ce silence radio de Kiev hein, qui a prévenu qu'il ne donnerait pas d'indications précises sur les opérations en cours, de nature à renseigner Moscou sur ses plans. Vous l'avez compris, la guerre est aussi une affaire de communication et de dialectique. Il faut parler un peu, Rouhan, sans trop en dire.
Exactement. Moussa, la dernière question.
Oui, c'est on peut lire à la deuxième. Donc, ouais. N'était-il pas plus stratégique de garder secret la contre-offensive ?
Ah. Non, pas nécessairement.
Que répond le spécialiste des questions défense que vous êtes
Rappelez-vous les Alliés en 44, avant de débarquer en Europe, en Normandie. Ils avaient annoncé leur intention de débarquer en France. Tout le monde le savait, et les Allemands les attendaient, non pas en Normandie, mais dans le Pas-de-Calais.
Effectivement. Moussa, a-t-on répondu à vos questions ? Êtes-vous satisfait ?
Oui. Bien. Juan, est-ce que je peux juste saluer deux personnes qui me sont très chères ?
Alors, juste deux, alors. Allez-y.
Oui, ma femme Nema Getsamb et ma grande sœur Kinesam qui vit à Paris. Je les embrasse toutes les deux.
Eh bien, on les salue également. Merci Moussa de nous écouter donc à Badourar en Allemagne. Bonne journée et un grand merci à vous, Franck Alexandre. À bientôt.
Bonne journée.
10h17 à Paris. On va parler football. Victor Missistrano du service des sports nous rejoint. Installez-vous, soyez le bienvenu, Victor.
Merci Juan. Bonjour à tous.
Nimir fait partie de ces auditeurs qui s'interrogent sur la carrière de Lionel Messi. Bonjour Nimir.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes à Doba, dans le sud du Tchad.
Oui, c'est cela.
On vous écoute, quelles sont vos questions sur l'Argentin Messi ?
J'ai été très surpris d'apprendre le départ de Messi à l'Inter Miami. Alors j'aimerais savoir pourquoi l'Arabie Saoudite et FC Barcelone, les deux premières options, qui s'ouvraient à lui, n'ont-elles pas finalement réussi à attirer Messi ?
Ouais, c'est finalement de l'autre côté de l'Atlantique hein, que Messi va poursuivre sa carrière. Victor Missistrano, effectivement, est-ce qu'on sait pourquoi l'Arabie Saoudite et le Barça n'ont pas réussi à le convaincre ?
Oui, on peut deviner. Bon, ces deux destinations, c'est des options extrêmement différentes, bien sûr. Lionel Messi était très attiré par un retour au FC Barcelone, c'est un secret pour personne. Il l'a dit d'ailleurs au moment de sa prise de parole pour expliquer son choix, en affirmant qu'il était très excité à l'idée de revenir. Mais l'Argentin a aussi déclaré que les conditions d'un retour n'étaient pas réunies. Ce qui transparaît, c'est que ces conditions, elles sont essentiellement économiques. Le Barça était contraint à de gros efforts, notamment à vendre des joueurs. Et ça, visiblement, le club n'y était pas prêt pour un joueur de bientôt 36 ans, en tout cas les dirigeants. Messi, lui, dit que la raison n'est pas économique, qu'il n'a pas cherché à négocier de salaire. Selon lui, l'argent n'est pas un problème, sinon il serait allé en Arabie Saoudite.
Alors justement, comment expliquer que Messi n'ait pas accepté cette offre pharaonique en Arabie Saoudite ? On parle tout de même, tenez-vous bien, de 400 à 500 millions d'euros par an.
C'est vertigineux. Bon, là, on est forcé de le croire, sa priorité absolue n'est pas l'argent. Ouais. En tout cas, il n'a pas privilégié un contrat très, 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 très important par rapport à un très gros contrat que lui offre l'Inter Miami. Donc si on veut tenter d'expliquer son refus de jouer en Arabie Saoudite, même si on n'est pas dans sa tête, on peut penser déjà au côté sportif. Il y a tout de même une sacrée différence de niveau entre le championnat américain et le championnat saoudien, même si celui-ci devrait monter en régime avec les investissements récents, notamment l'arrivée de Cristiano Ronaldo récemment. L'autre hypothèse, c'est celle du cadre de vie. Il se murmure que Messi et surtout son épouse ne se voyaient pas tout simplement vivre en Arabie Saoudite.
Et il préfère donc les palmiers de Miami.
Exactement.
Vous avez une autre question, Nimir ?
Oui, effectivement.
On vous écoute.
Comment Miami l'a convaincu de signer et que peut-il apporter au championnat américain ?
Alors, Miami, les arguments du club de David Beckham,
bah voilà,
pour
c'est
le convaincre.
C'est un peu l'inverse de ce que j'ai expliqué auparavant. Le cadre de vie, c'est très important pour l'Argentin. Il n'était pas heureux à Paris, sur le terrain, mais aussi en dehors. Mais s'il voulait quitter l'Europe, s'il ne revenait pas à Barcelone, donc la destination des États-Unis s'est en quelque sorte imposée pour la qualité de vie. La Floride, c'est très touristique, très animé. Et comme le joueur met sa famille et ses trois enfants au centre de ses priorités désormais, ce choix semble plutôt familial. C'est d'ailleurs ce que nous disait le consultant de Radio Foot, Patrick Juillard, récemment. Ça faisait déjà plusieurs saisons que le club de l'Inter Miami était cité comme une destination probable. Certes, il ne propose pas le même salaire que le club saoudien d'Al-Hilal, mais ce sera quand même un salaire très important. La MLS est un championnat riche où les droits TV sont importants et le sponsor de Messi, Adidas, est celui du club. Le joueur pourrait bénéficier d'une partie des revenus générés. Donc on ne se fait pas de soucis pour lui, même s'il ne va pas en Arabie Saoudite, il ne risque pas d'avoir des problèmes financiers d'argent.
Que peut-il apporter concrètement au championnat américain ?
Eh bien, ce qu'il avait apporté à Paris, une formidable publicité. À l'annonce du départ de Messi, le PSG a perdu en quelques heures plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. À Miami, les demandes de places ont explosé, les prix aussi, et c'est ça aussi, toutes les équipes du championnat vont en bénéficier. C'est souvent le cas. Les équipes délocalisent des matchs au moment d'accueillir des équipes adverses avec des joueurs stars.
Ouais, à suivre donc. Nimir, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, bien, merci.
Merci à Victor Missistrano, alors, du service des sports. Bonne journée à tous les deux. 8h21 en temps universel. N'oubliez pas, dans 20 minutes, la libre antenne. L'équipe vous attend au standard 33 9 693 693 70. Avant de repasser, justement, et d'accueillir un nouvel auditeur, je vous rappelle que lundi prochain, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant, bien évidemment, puisqu'on a déjà reçu beaucoup, beaucoup de questions. Mais je vous rappelle que lundi, journée spéciale sur RFI, journée consacré à l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai qu'il ne se passe pas un jour sans qu'on ne vous en parle pas. Ce sera l'occasion, si vous le voulez, bien évidemment, vous tous, de mieux comprendre cette nouvelle technologie qui fascine, mais elle inquiète également. Donc on va essayer, à travers toutes vos questions, de démêler le vrai du faux. Donc continuez à nous envoyer vos questions sur nos réseaux sociaux et on sera un plaisir de vous répondre lundi matin, émission spéciale, journée spéciale, intelligence artificielle sur RFI. Moussa, bonjour.
Oui, bonjour, Juan, et bonjour à Moussa, direct de Congo.
Alors, excusez-moi, il y a eu un problème de liaison. Vous dites bonjour. Bonjour à qui ?
Bonjour à Ousmane, mon frère.
Ah, votre frère. Ah, bah, si tout le monde se met à faire des dédicaces sur l'antenne de RFI, pourquoi pas ? Mais le temps est précieux et vous avez des questions sur le Soudan, Moussa. Vous nous appelez de Bangui.
Exactement. Le Conseil de sécurité a prolongé la mission de l'ONU au Soudan. Alors, Juan, pourquoi avoir prolongé le mandat de seulement 6 mois au lieu d'un an, comme c'est le cas habituellement ?
Ah, effectivement, on en a parlé en début de semaine sur nos antennes. Houda Ibrahim, bonjour. Houda Ibrahim, journaliste au service Afrique de RFI, on établit la liaison en ce moment. J'espère qu'on va retrouver Houda très vite. Bonjour Houda. Alors, on me dit que vous êtes là, mais visiblement, moi, je ne vous entends pas, ni les auditeurs. Oui. Bonjour, Houda.
Oui, bonjour.
Ça y est, on a appuyé sur le bon bouton. Houda Ibrahim, merci de prendre quelques instants pour répondre à Moussa. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment l'ONU, qui, au moment de renouveler le mandat de sa mission au Soudan, ne le prolonge que de 6 mois, alors que le pays est en guerre.
Oui, le raccourcissement de la mission intégrée des Nations Unies au Soudan reflète surtout le manque de consensus des 15 pays membres du Conseil de sécurité. Cela se produit auparavant à plusieurs reprises pour la mission de l'ONU en Libye, par exemple, mais également pour la mission au Sahara occidental. Faute de consensus, c'est un accord à minima que l'on obtient. C'est donc un prolongement technique qui permet aux pays membres d'évaluer cette mission dans les 6 mois à venir. Les 15 n'étaient pas d'accord non plus sur l'élargissement du rôle de cette mission au grand regret des États-Unis, la Russie, la Chine et plusieurs pays africains, le Ghana, le Mozambique et le Gabon, étaient réticents.
Oui. Et cette réunion du Conseil de sécurité, elle s'est tenue alors que l'émissaire de l'ONU au Soudan n'est plus le bienvenu à Khartoum. Il est contesté par l'armée et par le gouvernement soudanais.
Oui, il faut rappeler que le général Al-Burhan, quelques jours avant cette réunion, avait déclaré Volker Perthes, le chef de la mission de l'ONU, persona non grata à Khartoum. Il avait réclamé son limogeage, l'accusant d'avoir dissimulé dans ses rapports la situation explosive à Khartoum à la veille de la guerre qui a éclaté le 15 avril et d'être responsable de cette guerre. Des mensonges qui ont permis, selon Al-Burhan, à son adversaire Hamiti de lancer son opération. Alors que de nombreux observateurs prédisaient l'échec des discussions, visant à intégrer les FSR de Hamiti dans l'armée régulière, Pertes proclamait son optimisme. Si le secrétaire général de l'ONU a accordé sa confiance absolue à Pertes hier, le ministère soudanais des Affaires étrangères a réitéré sa position en le déclarant à nouveau persona non grata, ce qui va certainement lui compliquer davantage la tâche.
Évidemment. Vous avez une autre question, il me semble, Moussa.
Et oui, exactement. Ça fait 2 ans que la MINUA est au Soudan depuis 2020, mais elle n'a pas réussi à apaiser les tensions. Alors, Juan, quel nouveau moyen qu'on peut mettre en place afin de régler les conflits?
La liaison téléphone est vraiment trop mauvaise avec Bangui. Hein, vous n'y êtes pour rien, évidemment, Moussa. De quels moyens va disposer donc la mission des Nations Unies au Soudan pour essayer de régler le conflit? C'est en substance, là, si j'ai bien compris votre question, Moussa. Houda Ibrahim, en quelques mots, que peut-on répondre?
Alors, les militaires soudanais cherchent à affaiblir la mission onusienne pour rester au pouvoir et échapper à la justice, car, je le rappelle, les généraux au pouvoir actuellement sont accusés de crimes de guerre au Darfour et s'accrochent à leur poste. En octobre dernier, ils ont chassé leur partenaire civil du pouvoir pour l'accaparer en ignorant totalement la transition démocratique. Or, Pertes s'est attelé à rappeler aux militaires la nécessité de reprendre le processus politique, de discuter avec les civils, de prendre le chemin de la transition démocratique. Et c'est ça qui n'est pas apprécié par eux, cette pression-là de la part de l'ONU. L'ONU ne peut rien faire si les deux parties du conflit ne décident sérieusement de se mettre autour de la table. Pour le moment, ils ne montrent aucune volonté de mettre fin à la guerre. Au contraire, chacun reste convaincu qu'il est capable d'en finir avec l'autre. De toutes les façons, pour des raisons sécuritaires, Volker Pertes, selon l'ONU, doit opérer maintenant à partir de Nairobi au Kenya.
Ah, effectivement, et ça risque de lui compliquer la tâche, bien évidemment. Merci infiniment, Houda Ibrahim. Bonne journée. Merci à Bangui, à Moussa, pardon, qui nous appelait de Bangui. Dernière question de la semaine. Bonjour, Cissé.
Oui, bonjour Juan, bonjour aux millions d'auditeurs de la radio mondiale.
Et merci de nous appeler de New York.
Tout à fait.
On vous écoute, quelles sont vos questions?
Depuis mardi, nous sommes entourés à New York d'une énorme fumée orange causée par les incendies au Canada et qui m'inquiète beaucoup. Pourquoi cette fumée est-elle dangereuse pour notre santé?
Ah, bonne question que nous posons à Christian Georges. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste des aérosols. New York est depuis quelques jours l'une des capitales où la qualité d'air est la pire au monde en ce moment. Expliquez-nous pourquoi et pourquoi cette fumée est-elle dangereuse?
Alors effectivement, là, le Canada est actuellement sujet à d'intenses feux. C'est une année record probablement pour le Canada et ces feux créent en fait une fumée qu'on va voir dans le ciel parce qu'elle interagit avec la lumière du ciel. En fait, elle bloque un certain type de couleur et on va voir en fait un ciel orangé. On va voir un ciel orangé parce que cette fumée contient des petites particules, des particules ultra fines. Effectivement, quand on va respirer ces particules ultra fines, ben, on peut typiquement avoir des problèmes respiratoires ou avoir une irritation des yeux. Donc oui, cette fumée est potentiellement dangereuse.
Et que faire? Rester à la maison ou quand on sort, il faut absolument porter des masques chirurgicaux qu'on a vus dans les rues de New York?
Alors, rester chez soi, ne pas faire de sport, porter un masque, mais sûrement pas un masque chirurgical parce qu'il ne sert à rien.
Ah d'accord.
Voilà, donc oui, il faut porter un masque, mais il faut porter un masque de type FFP2 pour se protéger des particules ultra fines. Le masque chirurgical va uniquement protéger, va éviter que lorsque vous toussez, vous allez émettre des petites gouttelettes, comme ça a été le cas pendant la pandémie. Mais si on veut se protéger des aérosols ambiants, donc des particules ultra fines issues des feux de bois, il vaut mieux porter un masque FFP2.
Merci pour ces conseils. Merci infiniment, Christian Georges, d'avoir répondu brièvement à Cissé, à qui je souhaite un bon courage et une bonne journée à New York. D'ailleurs, Cissé, si vous souhaitez témoigner dans la deuxième partie, dans la libre antenne, de votre quotidien à New York depuis le début de la semaine, vous serez bien évidemment le bienvenu. Dans 15 secondes, la dernière édition d'Afrique Matin, et on revient tout de suite après pour la libre antenne. Je vous redonne le numéro 33 9 693 693 70.